Oui, j'ai un bonnet. Oui, il fait froid ce matin. Je suis sorti promener le chien tout à l'heure et c'était super froid. Alors oui, j'ai un bonnet. Bon, c'est pas le principal. Le Nasdaq a battu un sixième record d'affilée, mais ça ne choque plus personne. Ça n'impressionne même plus personne. Nous sommes rentrés dans le new normal, une nouvelle normalité qui nous permet de monter encore et encore et qui fait illusion encore. Et encore. Je dis illusion parce que quand on regarde ce qui fait monter le marché, on voit bien que sans les grands noms de la technologie, on ferait bien moins les malins. Ça s'appelle le breath à Wall Street, est difficile de traduire, mais on pourrait essayer de dire que ça représente la participation du marché. Autrement dit, ceux qui montent par rapport à ceux qui baissent. Sur 500 titres, il y a seulement 50 qui montent pour l'instant. J'appelle pas ça un rallye, j'appelle ça une illusion collective. Enfin, c'est un peu le bilan de la séance d'hier. Le marché monte, mais pas avec tout le monde. Il faut dire que l'activité est encore très très calme en ce lundi. Enfin, c'était très calme en ce lundi. Mais ça faisait un peu penser à un dimanche qui aurait quand même décidé de travailler. Il faut dire que la Fed est en black period avant le prochain FOMC meeting agendé pour la semaine prochaine, que Trump n'a pas réussi à nous sortir un truc qui booste la volatilité et ou de se fâcher avec quelqu'un. Et pour terminer, il n'y a pas de chiffres économiques ou presque, surtout pas le lundi. Et les grosses publications du trimestre, elles s'étaient encore accordées un jour de plus avant d'attaquer la semaine. Autant vous dire qu'il fallait de la volonté pour se lever ce matin et vous faire cette vidéo. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 22 juillet 2025. Je suis Thomas Veillet et oui, j'ai un bonnet parce qu'il fait froid. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Lundi soir, New York a donc fini dans le vert. Enfin, le Nasdaq et le S&P 500, eux, ont encore battu des records pendant que le Dow Jones faisait la sieste et perdait 19 points. Alors si vous vous demandez qui fait la locomotive au milieu de tout ça, bah cherchez pas, c'est toujours les mêmes. Alphabet en tête qui s'offre un joli plus 2,7% avant ses résultats. Et puis derrière, le reste des 7 magnifiques se met en position. Apple plus 0,62, Amazon plus 1,43 et Tesla qui reculait de 0,35% en attendant ses publications de mercredi soir. Mais on va y revenir. Chez les stars de Wall Street, on notera tout de même que pour une fois, c'est pas Nvidia qui fait le show. Ouais, parce qu'en fait, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés que Nvidia a discrètement glissé à ses clients chinois les puces H20. Bah, on en a presque plus en fait. Et on leur fera pas de toute façon. Et pourquoi est-ce qu'ils n'en feront pas? Eh bien parce que les sanctions US d'avril ont forcé Nvidia à annuler les commandes et à geler la production chez TSMC. Résultat, les lignes de production ont été filées à d'autres clients. Repartir de zéro prendrait au moins 9 mois, indique cite le patron de Nvidia lui-même. Bref, les Chinois vont devoir faire sans. Et Nvidia, pour l'instant, silence radio. No comment officiel. Ce que je vous dis là, ce sont que des rumeurs, bien sûr. Hein. Alors, que ce soit vrai ou faux, si on gratte un peu des infos, on se dit que ce sont surtout des tensions techno-géopolitico-commerciales qui continuent d'être omniprésentes, pour ne pas dire plus. Donc, Nvidia n'a pas fêté de record comme le Nasdaq pour une fois, mais ce qui est assez fou, c'est que même avec une bonne rumeur toute pourrie comme ça, bah le titre y baissait que de 0,6%. Ce truc-là est totalement indestructible. Pendant ce temps, Verizon nous a fait une surprise, plus 4% après avoir relevé ses prévisions de bénéfices, comme quoi même un opérateur télécom peut encore donner un peu d'émotion au marché. Mais bon, peu importe, hein, qui se lève le matin en se disant « Ouais, je suis tellement content d'avoir du Verizon en portefeuille !» Ouais, c'est bien ce que je pensais. Tout le monde s'en fout. Et pour le reste, même si hier c'était calme, on sentait un certain optimisme du côté des investisseurs. On espère des bons résultats. Sur le Q2, le consensus attend une hausse de plus 6,7% des bénéfices pour le S&P 500. Et surtout, surtout, on croise les doigts pour que les géants de la tech fassent le boulot parce que sans eux, le marché ressemble à une fondue au fromage où on aurait remplacé le pain par des brocolis vapeur. C'est d'ailleurs ce qui nous amène à parler ce matin du breath. Alors vous l'avez constaté, le S&P 500 et le Nasdaq continuent de battre des records, on vient d'en parler. Mais si on enlève Nvidia et deux trois potes de PLIA, c'est vite la bérésina. Il suffit de regarder le Dow Jones qui est dans un coma parce qu'il n'a pas assez de tech dedans, surtout pas assez de Nvidia à l'intérieur, et que la majorité du reste ne fout strictement rien. Et il y a une vieille croyance à Wall Street, une croyance qui date de l'époque où les algos n'existaient pas et que l'IA n'était qu'une partie du scénario de Terminator, mais qui pense que... Mais cette croyance pense que pour qu'un marché soit sain et solide, il faut une large participation. Donc retour rapide sur les bancs de l'école pour qu'on soit tous alignés sur ce que je vous raconte. Le BRESS, c'est quoi? Alors, rien à voir avec les poulets, c'est de l'anglais BRESS, avec un D à l'intérieur, c'est assez important. Et ben le BRESS, c'est tout simplement le nombre de titres qui montent avec le marché. Est-ce que beaucoup d'actions montent ou juste quelques-unes? Un bon BRESS, c'est une hausse saine. Quand la majorité des titres montent ensemble, c'est solide. Un mauvais BRESS, c'est dangereux. Si seulement les gros comme Nvidia ou Apple, etc., etc., font monter l'indice, mais que le reste stagne ou baisse, c'est considéré comme fragile. Comment est-ce qu'on le mesure? Bah, on prend le nombre d'actions en hausse contre le nombre d'actions en baisse. C'est assez logique et instinctif. Et puis après, le volume est changé sur les hausses et les baisses. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Ben, parce qu'un marché qui monte sans participation large peut se retourner beaucoup plus violemment au moindre vent contraire. En clair, le BRESS, c'est vérifier si tout le monde grimpe ou juste les stars. Et s'il n'y a que les stars qui brillent, le marché peut vite se prendre les pieds dans le tapis. Donc maintenant qu'on est au courant du principe, on peut tous se rendre compte que la séance d'hier était grotesque. Le S&P montait, soit, mais à peine 10% des titres étaient en hausse. Un record de déséquilibre qu'on n'a pas vu depuis 2001. Alors vous avouerez que ça pose quand même quelques questions. Non, parce que si l'on croit ce que je viens de vous expliquer, il vaudrait mieux qu'on ne se prenne pas une petite mauvaise nouvelle dans les oreilles avec un petit profit warning chez des Mag 7, sinon ça va faire mal très très vite. Et comme disent les pros, le marché fatigue, les signaux de surchauffe s'accumulent et le système approche d'un point de rupture. Alors pas encore le crash, hein, bien sûr, parce qu'on sait tous que le crash annoncé, ça n'existe pas, mais assez pour te donner envie de rester assis sur ton cash. Parfois, il faut reconnaître que ne rien faire, c'est déjà bien faire. Donc hier, avec une participation toute pourrie, le S&P et le Nasdaq ont affiché de nouveaux records. Les marchés du vieux continent ne foutent strictement rien en attendant les décisions du couple royal européen, von der Truck et Macron, au sujet de la réplique anti-américaine qui devrait être déployée d'ici la fin de la semaine. Côté géopolitique, vous l'aurez compris, la menace des droits de douane version Trump plane toujours. Entrée en vigueur prévue le 1er août, on sait tout, sauf si un accord commercial magique sort du chapeau. Le secrétaire au commerce Howard Lutnick dit qu'un deal avec l'Europe est en bonne voie. Il n'arrête pas de teaser le marché avec ce genre de truc. Et même si je suis assez d'accord avec lui sur la probabilité d'un happy end made in Walt Disney, je dis que tant que rien n'est signé, c'est que rien n'est fait. Et puis alors attention, hein, aujourd'hui, il y a Powell qui va parler. Alors les membres de la Fed, je vous le disais au début de cette vidéo, sont en black period. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit, ils n'ont rien le droit de dire au sujet des taux, de l'économie et de la stratégie de la Fed pendant les 10 jours qui précèdent le meeting du 29-30 juillet. Mais le patron de la Fed est invité dans un truc qui s'appelle Integrated Review of the Capital Framework for Large Banks à Washington DC. Il ouvrira l'événement avec des remarques sur la réglementation bancaire et la structure de capital des banques. A priori, rien à voir avec la baisse des taux attendue par le marché et exigée par Donald Trump. Mais on va quand même scruter son discours au cas où il lance des bouées à la mer ou s'il laisse traîner des cailloux comme le petit pousset ou il laisse des indices à droite à gauche. On sait pas, des trucs en petits caractères en bas du discours, on verra bien. Ensuite, Jérôme sera silencieux jusqu'à mercredi prochain, jour où il viendra dire qu'il garde les taux inchangés juste avant de mettre les mains devant sa bouche en disant « pas les dents, pas les dents !» en attendant la prochaine insulte du président américain. Pour le reste, le marché se concentre donc sur les chiffres à venir et s'il y a un chiffre que l'on regardera attentivement, parce que c'est toujours un événement, c'est les chiffres de Tesla qui sortiront après la clôture de mercredi soir. Comme à chaque fois avec Tesla, chaque publication des résultats, c'est un épisode de série Netflix et l'épisode du deuxième trimestre 2025 s'annonce croustillant. Mais tout d'abord, revenons sur les attentes. Le bénéfice par action attendu est à 0,39. Le chiffre d'affaires estimé, c'est 22,1 milliards. L'an dernier, c'était 0,52 par action et 25,5 milliards de ventes. En clair, ça baisse et pas qu'un peu. Tesla n'a vendu que 384 000 voitures sur le trimestre. trimestre, soit une baisse de 13,5% par rapport à l'année dernière. Et avec le modèle low cost repoussé et les crédits d'impôt supprimés par Trump, les volumes risquent encore de se casser la gueule. La soirée de mercredi risque donc d'être chaud patate. Mais on va pas se mentir, on attend tous le gros morceau, les annonces sur l'IA, les robots taxis et les robots humanoïdes. Tesla a déjà lancé son service de robot taxi à Austin et veut vendre des humanoïdes en 2026. Mais on attend plus. Toujours plus, histoire de relancer la bonne vieille punchline sur Tesla qui dit « Tesla, c'est pas que des voitures !» Côté régulation, c'est pas la joie non plus. Plus de crédit d'impôt fédéral. La Californie n'a plus le droit d'imposer ses propres normes anti-pollution. Mauvais pour les ZEV, les crédits qui rapportaient gros. Alors les ZEV crédits, c'est le business où tu gagnes de l'argent en ne polluant pas ou en laissant les autres polluer à ta place. ZEV, ça veut dire zéro émission de véhicule. Et pendant ce temps, Musk joue son one-man show, bien sûr. En mai, il quitte Washington, il se frite avec Trump, il lance un nouveau parti et ce week-end, il annonce qu'il dort de nouveau dans ses bureaux. Je vous cache pas, au sujet des chiffres de Tesla, l'ambiance est un peu tendue. Tesla vaut toujours 180 fois les bénéfices 2025, une valorisation qui ne repose que sur la foi en Elon Musk. Et la foi, c'est bien, mais ça remplit pas les carnets de commandes. Les options, pour l'instant, anticipent un mouvement de plus ou moins 7% après les résultats. Historiquement, on tourne plus ou moins du 11% en général. Et en général, ça monte plus souvent que ça baisse, surtout. Alors, rappel pour la route, Tesla, c'est 18% de baisse year to date, donc depuis le 1er janvier, et une hausse de 38% sur les 12 derniers mois. En gros, Tesla, c'est pas que des voitures. Ouais, c'est vrai, mais c'est surtout de l'espérance en cotation continue. Techniquement, je pourrais arrêter cette vidéo ici et vous balancer des banalités comme quoi le Japon ne fout rien ce matin après la volée de bois vert électorale que vient de se prendre le gouvernement et que dans la foulée, la Chine et Hong Kong ne font rien non plus. Je pourrais aussi vous parler du pétrole qui descend à 65,34 parce que les sanctions contre la Russie, tout le monde s'en fout comme d'habitude. Je pourrais aussi vous dire qu'aujourd'hui, on attend les publications de SAP, Coca, Philip Morris, Halliburton, Texas Instruments et Dassault Aviation et qu'il n'y aura pas de chiffres économiques aujourd'hui et que pour l'instant, les futurs ne foutent strictement rien. Mais j'ai plus envie de conclure cette vidéo avec un petit truc dont je voulais vous parler. C'est le Nasdaq qui fait la fête comme en 1999 et comme en 1999, ça pourrait finir en larmes. Depuis 60 séances, le Nasdaq 100 clôture au-dessus de sa moyenne mobile des 20 jours. Un record qu'on n'a plus vu depuis février 99. À l'époque, c'était la bulle internet, les boîtes sans chiffre d'affaires et les IPO de sites pour vendre des grippins online. On connaît la suite. Enfin, moi je la connais en tous les cas. Et d'ailleurs, certains experts commencent à sonner l'alarme parce que il y a des penny stocks qui explosent sans raison. Prenez le cas d'Opendoor, plus 42% en une journée. Le retour des actions storytelling, en gros, des belles histoires, mais rien de fondamental derrière, pas de bénéfices. Et une montée en flèche des titres viraux sur Reddit, X, TikTok et compagnie. Tout le monde veut profiter de la hype. Techniquement, le Nasdaq est en super forme, plus 23% depuis le mois d'avril, mais cette montée en ligne droite, trop propre, presque trop parfaite, commence quand même un tout petit peu à puer l'euphorie. Ce genre de rallye prolongée, c'est souvent le calme avant la tempête. On sait jamais combien de temps une euphorie va durer, ça peut durer très longtemps, mais quand même, c'est un signe de méfiance. On se souviendra quand même qu'en 1999, après une série similaire, 77 jours au-dessus de la moyenne mobile des 20 jours, le marché a quand même continué à grimper. Mais un an plus tard, c'était le carnage. Oui, les boîtes du Nasdaq 100 aujourd'hui sont plus rentables qu'en 1999. Je sais, ils gagnent de l'argent, contrairement à 1999. Je sais, mais le comportement des investisseurs, FOMO, spéculation, réseaux sociaux, eh ben lui, il fait sacrément écho à l'époque dot-com. D'ailleurs, je pense sincèrement que si TikTok avait existé en 1999, on aurait été largement aussi con qu'aujourd'hui. En tout cas, c'est pas bon signe du tout. Quand même, il faut le garder en tête. Moralité, les fondamentaux, bénéfices, croissance des ventes sont relégués au second plan, la forme prime sur le fond et les signaux d'excès continuent à s'accumuler gentiment. Alors, est-ce que c'est le pic ? Probablement pas encore, ça serait trop facile, on peut encore avoir droit à une vague d'excès. Est-ce que le marché a besoin d'une claque pour se réveiller ? Sûrement, voire peut-être. Voilà, ça vous plaît alors de finir ce genre de vidéo avec une fin bien déprimante à soi ? Allez, moi je vous promets, demain je vous trouve une bonne nouvelle à vous raconter. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de revenir demain pour voir si le Nasdaq a fait un 7 à la suite. Soyez forts et n'oubliez jamais, il y a deux types de prévisions, celles qui sont fausses et celles qui sont faites après coup. Allez, belle journée à tous, bye bye.